Salut, c'est Cassandra de Nouvelles Écoutes. Si vous cherchez d'autres podcasts, laissez-moi vous présenter la nouvelle création du studio Nouvelles Écoutes. La série s'appelle Solastalgie, elle a été écrite par la journaliste et autrice Flora Trouillou, mise en musique par Tilassine et Bravinsan. Solastalgie décrit le deuil de paysages disparus à cause du réchauffement climatique. Elle donne la parole à celles et ceux qui ont profondément aimé ces lieux et assistent, impuissants, à leur transformation. Des Cévennes aux écrins, en passant par Biarritz ou La Réunion, Solastalgie est un itinéraire sonore, comme une mémoire collective à travers des endroits magiques, vulnérables, mais aussi résilients. Je vous invite à découvrir dès maintenant le premier épisode intitulé « Le mal des montagnes ». Il raconte l'histoire d'un homme, Freddy Ménian, gardien de refuge, et celle d'une montagne mythique, la Meije, dans le massif de l'Oisans. Installez-vous confortablement. Bonne écoute.
Les effets du changement climatique ne sont pas toujours faciles à observer. Souvent même, ils se manifestent loin de nous, dans des endroits reculés qui sont difficiles d'accès, voire même inaccessibles, dans des lieux sauvages, loin du monde des humains. C'est le cas du réchauffement climatique en montagne. Ce sont des transformations qui sont rapides, parfois spectaculaires, mais qui ont lieu à très haute altitude. Ça se passe donc loin de notre quotidien. Freddy Ménian est gardien de refuge dans les Alpes. Quand il arrive dans le massif de l'Oisans, il ne sait pas encore qu'il va vivre 10 années perché sur la montagne de ses rêves, mais aussi qu'il va vivre un terrible accident, un événement qui va le bouleverser intérieurement.
On s'y attendait pas parce que à 6h15 du matin, moi j'avais réveillé les cordées à 4h, elles étaient parties, moi je m'étais recouché sur la terrasse, et puis tout d'un coup, un énorme bruit. Mon sang a fait qu'un tour et on a eu peur.
Avec le dérèglement climatique et l'impact des activités humaines, de plus en plus de personnes vont voir leur environnement familier changer radicalement. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent déjà ces bouleversements. Dans des lieux d'une grande beauté, accessibles ou reculés. Des endroits vulnérables, abîmés, mais aussi résilients. Nous raconterons ces lieux magiques et aimés pour en garder la trace avant qu'ils ne disparaissent. Série documentaire de la journaliste et documentariste Flora Trouillou. Bienvenue dans Solastalgie.
C'était pas du tout un projet de vie. Avant, je vivais en zone urbaine, j'ai vécu en ville, j'ai travaillé en ville, mais j'ai toujours aimé la montagne. Voilà, ça doit être d'origine familiale, je sais pas. Enfin, bref, depuis que je suis chaud, même en étant citadin, j'ai toujours vécu avec ça. Il y a un moment de ma vie où je me suis dit, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a qu'une vie, mais j'avais vraiment envie que ma seconde partie de vie, je la vive à fond, dans un endroit qui me porte et que j'aime, quoi. Et donc, j'ai quitté la région parisienne et je suis venu en montagne. J'avais remarqué que les gens qui se promènent en montagne, ou les gens qui font des randos, les gens qui font de l'alpinisme, ou les gens qui font du ski de rando, tout ça, quand ils vont en montagne un jour, deux jours, trois jours, quand ils reviennent, ils ont des étoiles plein les yeux, tout ça. Et puis, très souvent, ils parlent de leur passage en refuge. C'est un moment important dans ce voyage. Ça permet de se poser. Un moment d'humanité important dans un voyage un peu, non pas extraterrestre, mais en dehors de la vie humaine, quoi, classique. Bref, donc j'ai commencé dans un petit refuge, tout petit refuge, une cabane de berger, un des plus petits refuges gardés de France, quoi. Après, j'ai eu la chance, comme quoi des fois quand on est motivé, de toute façon la chance elle vient souvent, elle rencontre souvent la motivation, hein. C'est le refuge du Promontoire, donc le refuge du Promontoire, il se trouve que c'est le refuge donc, qui est en face sud de la Meije, qui est à 3100 mètres, qui est perché en falaise. C'est un refuge un peu emblématique dans le sens où des refuges à plus de 3000 mètres en France, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 11 à ma connaissance. Et le refuge du Promontoire, en plus, donc je disais, il est sur au pied de la Meije, et la Meije, je ne sais pas pourquoi, vous savez, quand on tombe amoureux, on n'arrive pas toujours à l'expliquer, Mais bon, je suis un peu amoureux de cette montagne, quoi. Bon, elle est belle, elle est plus que belle, elle est mythique, elle est... Je sais pas, voilà, elle me procure des émotions.
Depuis très longtemps, Freddy est fasciné par cette montagne. Elle s'appelle la Meije, avec un M. La Meije est une montagne bien connue des alpinistes. D'abord, parce qu'elle est très belle. On dit même qu'elle est parfaitement asymétrique. Et aussi parce qu'elle a une histoire.
Il y a eu toute une période qui n'est plus du tout d'actualité, où c'était les grandes conquêtes, à l'époque on appelait ça, les conquérants de l'inutile et tout ça. Donc c'était les premiers qui arrivaient dans tous les sommets, entre le 19e et le 20e siècle, selon les cas. Et la Meije, eh ben c'est celle qui a donné le plus de difficultés. C'est le dernier sommet, grand sommet des Alpes européennes, qui a été conquis, 1877. La Meije, eh ben, c'est une grande, une immense paroi, et il n'y a pas de voie facile. Et c'est, dans le langage des alpinistes et dans la vie des alpinistes, on parle souvent des voies normales. Par exemple, la voie normale du Mont Blanc, la voie normale de tel et tel sommet. La voie normale, c'est la voie la plus facile. Parce que c'est voilà, par là où on peut y accéder. Et la plupart des sommets, même s'ils ont des parois ou des voies difficiles, elles ont souvent une voie relativement facile, il ne faut pas exagérer, mais relativement facile par rapport aux autres. Sauf la Meije. Voilà, c'est pas un truc que tu décides le matin, tiens, tu dis je vais aller faire la Meije. Non. C'est un objectif, c'est un projet, c'est toute une histoire quoi, d'aller faire la Meije, même aujourd'hui. Ça marque la vie d'un alpiniste. Quoi. Ce refuge, donc, ce fameux refuge du promontoire, il s'est libéré. Et donc j'ai postulé, et ça c'était en 2008, donc. J'avoue qu'il faut mesurer l'émotion que Enfin, je me rappelle encore, quand j'ai appris que je l'avais, j'ai failli m'écrouler debout, j'ai les jambes qui flagellaient, quoi. J'étais une émotion un peu forte, quoi. Voilà. Un rêve qui tout d'un coup t'arrive sur la tronche. Donc voilà, je suis devenu gardien de refuge. Dans un refuge mythique que j'aimais et que j'aime.
Ce refuge est situé très haut dans la face de la montagne. C'est un petit cube de métal, avec tout autour un étroit balcon. Dans cette boîte d'allumettes dans laquelle on se sert, on est en contact immédiat avec les éléments naturels.
C'est un endroit, on est sur un promontoire, comme son nom l'indique, le refuge s'appelle le refuge du promontoire. On est sur une crête, une arête rocheuse qui descend de la face sud, cette fameuse face qui est entre 3 et 4 000 mètres, et qui est bien sûr exposée à tous les vents, exposée à tous les éléments. C'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on est comme sur la proue d'un navire en pleine tempête parfois, quoi. Et on se prend tout dans la tronche, et tout, le vent, les éclairs, tout ça. On est dans un milieu là-haut, et sans être excessif, où tout ce qu'on peut vivre en bas quand on est dehors, c'est multiplié par X. Je ne sais pas par combien de fois, mais tout est plus fort, puissant. On est loin de tout, pas que géographiquement. Là-haut, on est en permanence attentif et branché sur les éléments. Tout ce qui se passe autour. On est toujours les cinq sens actifs. Voilà. Que ce soit l'écoute, l'ouïe, on regarde, on n'arrête pas de regarder ce qui se passe, on n'arrête pas d'écouter. La nuit, quand je me suis aperçu que, même pourtant on est crevé des fois parce qu'on a un rythme soutenu, le moindre bruit pas habituel, même une demi-heure après s'être endormi, ça réveille, quoi. Là-haut, on se la pète pas. Là-haut, s'il fait mauvais, personne peut venir nous chercher s'il y a quoi que ce soit. Parfois, on est tout seul, quoi, au sens propre du terme. Donc, on se sent un drôle de sentiment, petit, tout petit, Mais c'est marrant comme des fois de se sentir petit, on se sent mieux, on se sent, parce que on se sent être, on se sent vulnérable, mais on se sent faire partie d'eux. Clairement, les gens qui ont ce projet de venir là, ils viennent là pas par hasard. C'est un projet souvent ancré longtemps, donc ils arrivent au pied, ils arrivent au moment, c'est comme la veille d'un examen, accessoirement un examen avec des enjeux un peu vitaux. Donc bon, incontestablement, il y a un peu de stress, quoi. Pas dire le contraire.
Freddy veille sur les alpinistes qui viennent dormir dans le refuge avant de partir pour le sommet. Le soir, ils partagent un petit verre de rhum, prennent un repas tous ensemble et font le point sur la météo du lendemain. Quelques heures de sommeil plus tard, ils se lèvent au milieu de la nuit pour commencer l'ascension par cordée de plusieurs alpinistes. Et Freddy, lui, les surveille.
On est toujours attentif à ce qui se passe, à la fois pour regarder ce qui se passe et à la fois parce que souvent on a des cordées qui sont parties et qu'on se pose toujours la question s'ils ne sont pas dans l'axe. Voilà. Normalement, la nuit en montagne, ça gèle tout le temps, normalement. Mais de plus en plus, on a des nuits où ça gèle pas. Voilà. Et cet été-là, on avait eu deux nuits où ça avait gelé.
En montagne, les blocs de rochers sont maintenus ensemble par de la glace, qui fonctionne comme une sorte de ciment. Souvent, quand il fait chaud l'été, la glace fond pendant la journée. Mais elle regèle la nuit, ce qui permet de ressouder la roche ensemble pour une nouvelle journée de chaleur. Sauf que depuis plusieurs étés, rien ne se passe normalement.
Donc, on s'y attendait pas parce que à 6h15 du matin, moi j'avais réveillé les cordées à 4h. Là, c'était 4h. Elles étaient parties. Moi, je m'étais recouché sur la terrasse. Et puis, tout d'un coup, un énorme bruit. Hein, c'est... D'abord, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Bon, j'ai vu de vue qu'il y avait un problème parce que je me tourne donc vers la Meije, bien sûr. Puis là, je vois encore, le temps que je réagisse, que je situe le lieu, je vois. Alors, il n'y avait plus, j'ai pas vu toutes les masses rocheuses parce que elles étaient tombées très vite. Mais par contre, ça avait entraîné beaucoup de neige. Je me suis demandé, est-ce que c'est pas simplement de la neige ou des blocs de glace qui tombent? Et puis très vite, j'ai compris qu'il n'y avait pas que la neige, quoi. Ce qui est tombé, c'est parti à 3600 mètres, c'était l'équivalent des petites tours rocheuses, mais petites tours rocheuses, l'équivalent d'immeubles de 4 étages quoi, qui tombent sur 600 mètres, vous imaginez le bazar. Quoi. Et d'autant plus que j'avais les cordées qui étaient parties. Donc là, j'avoue que mon sang a fait qu'un tour et on a eu peur. Et là, on a surtout cherché à voir très vite où étaient les uns les autres avant de mesurer la gravité de l'éboulement. Quoi. C'était d'abord du secours humain. Voilà, après, ça s'est enchaîné très très vite. Petit à petit, on a resitué. Puis quand l'hélico est arrivé, on a vite mesuré que c'était heureusement pas si grave que ça. Je parle pas de l'éboulement, je parle du bilan humain. L'hélico a vite repéré les cordées. J'aurais donné les renseignements, bien sûr, sur le nombre de cordées et tout ça, de façon à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui était emmené. Enfin bon, bref. Voilà. Et puis après, tout le monde a été ramené les uns après les autres au refuge. Il y a une cordée qui était complètement en bas, qui a été partie sur une autre voie de la face, ce qu'on appelle la Pierre Alain, une voie de la face sud, qui sont revenus avec leur casque qui avait été défoncé par les cailloux, qui avait pris des petits cailloux, mais qui étaient eux indemnes. Non, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Je crois pas au miracle, mais là, il y en a eu. Il n'y a pas eu de mort. Voilà. Donc. Des fois, on ne comprend pas comment ça se passe, mais là, ça s'est bien passé. Bon, des blessés, bien sûr, mais pas de...
Pas de mort, un soulagement, un miracle même, comme le dit Freddy. Mais ce matin du 7 août 2018, dans un grand fracas, deux gigantesques tours rocheuses se sont bel et bien effondrées sur le glacier carré.
Comme ça s'était éboulé juste au-dessus de l'itinéraire de la voie normale, et on a eu des reconnaissances aériennes, tout ça, clairement les géologues nous ont dit qu'il y avait une grosse masse encore qui menaçait et qui allait tomber, donc de fait, plus personne n'est allé sur la mèche. Alors, je me suis retrouvé un 7 août comme gardien de refuge, pour accompagner ceux qui vont en montagne, tout d'un coup avec... en pleine saison, cette fois-ci, le refuge désert. Et alors, j'avoue que ça fait bizarre, parce qu'après, il a fait beau tout le mois d'août, et je me retournais vers la mèche, tout ça, pour voir les cordées, et il n'y avait plus personne dessus, quoi. Plus personne, et puis moi, plus personne au refuge, quoi. Voilà, donc, ouais, ça laisse pas indemne, parce qu'elle reste magnifique, la mèche, elle est toujours là. Et, même si, voilà, elle est amputée un peu, mais elle est toujours là. Et là, j'avoue que quand je suis redescendu, quand même un peu, ça brasse un peu de vivre tout ça là-haut. Quand je suis redescendu, je suis arrivé en ville, à Grenoble, je me rappelle encore comme si c'était hier. Et c'est bien, il y avait un rayon de soleil, il y avait les feuilles qui frémissaient avec un petit vent léger, les gens qui se baladaient, qui rigolaient, tout ça. C'était sympa, quoi, l'été à Grenoble, quoi, top. Sauf que j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'ai presque envie de crier, quoi. De dire, mais putain, regardez, quoi. Regardez ce qui se passe, quoi, là-haut. Regardez. Parce que la vie est presque insouciante, quoi, en bas. J'ai vu l'ouragan climatique arriver, quoi. Je sais que ça va nous arriver sur la gueule, il est en cours. J'ai envie de crier, je l'ai pas fait. Parce que je pense que j'aurais pas été compris si j'avais crié comme ça dans la rue. Mais quand même, ça m'a traversé l'esprit. Donc voilà, c'est clairement pour moi un élément, tout ce que j'ai vécu là-haut pendant 10 ans, à la fois d'une force extraordinaire, d'une beauté, d'une voilà, et en même temps d'une violence sur ce qu'on est en train de faire sur Terre, qui clairement a contribué à ma prise de conscience, quoi. Même si j'avais déjà, avant, une relation à la nature forte. Là, j'avoue que mes 10 ans au promontoire m'ont terriblement marqué, quoi, sur la responsabilité qu'on a de faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui.
Freddy a vu un morceau de sa montagne s'écrouler. Il a vécu un drame, en haute altitude, loin du quotidien de la plupart d'entre nous. C'est un peu comme s'il avait été le témoin d'une catastrophe invisible. Cette expérience a été difficile. Son activité s'est arrêtée brusquement et il s'est senti impuissant pour donner l'alerte. Et puis, petit à petit, il s'est mis à en parler autour de lui et à transmettre ce qu'il avait vu. Depuis cet été-là, Freddy a quitté le refuge du promontoire, ce qui était prévu, et milite pour la préservation de la montagne. Il continue aussi d'accueillir du monde dans un autre lieu, à plus basse altitude. Si une montagne s'écroule, c'est un peu comme une cathédrale de pierre et de glace qui tombe. Et dans le massif des Écrins, malheureusement, les éboulements sont de plus en plus fréquents. Ils deviennent la nouvelle norme. Malgré ses cicatrices, la neige est encore là. Elle est toujours belle. La montagne est un indicateur de ce qui vient à nous, des changements que nous allons vivre. Et comme le montre Freddy, elle est aussi une puissante source d'engagement. Solastalgie est une production Nouvelles Écoutes. Créée, écrite et témoignages recueillis par Flora Trouillot. Racontée par Laure Bernard. Réalisée par Mélia Roger. Mixée par Thomas Decourt, produite par Julien Neuville, musique originale par Tilassine et Bravinsan. Chargée de production, Ashley Tola. Assistant de production, Xavier Kamaki. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuelle Fortunato. Directrice générale adjointe, Nora Hyssen.
Vous avez aimé cet épisode et souhaitez écouter la suite de la série ? Il suffit de taper Solastalgie, Solastalgie, sur votre plateforme d'écoute préférée. Bon voyage !